Voilà, j'aimerais, Jean-Jacques, prier maintenant pour toi. Père, je te prie maintenant qu'à travers Jean-Jacques, tu puisses éclairer nos cœurs ce matin, que tu puisses aussi impacter nos vies. Je te remercie pour ce message qu'il va donner, car je sais, Seigneur, que tu vas l'orienter dans ta volonté. Et je te bénis, Jean-Jacques. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Voilà, sans embâche, je vous propose de commencer par un premier texte qui va vous décoiffer. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et qu'une âme, et nous lisons dans Actes 4, versets 32 à 37, « Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on distribuait à chacun selon ce qu'il avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Amen. Bien. Ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Il vous reste à continuer à écouter la prédication. Rassurez-vous, je ne vais pas vous demander de vendre vos biens terrestres ni d'apporter le prix de la vente aux responsables de notre Église. Là, vous pouvez respirer. Non, non, c'était juste un passage qui était une introduction que j'appellerais textuelle, contextuelle, pour nous permettre de mieux comprendre le texte qui va suivre et qui va, cette fois-ci, lui, retenir toute notre attention. Acte 5, et nous allons lire les 11 premiers versets. « Mais un homme du nom d'Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint avec le consentement de sa femme une partie du prix. Puis il apporta l'autre partie et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint et de retenir une partie du prix du champ? Lorsque tu l'avais, ne demeurait-il pas à toi? Et après la vente, le prix n'était-il pas à ta disposition ? Comment as-tu mis dans ton cœur une pareille action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens se levèrent, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, » répondit-elle, « c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte. Ils t'emporteront. » À l'instant, elle tomba à ses pieds et expira. Les jeunes gens, à leur entrée, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte saisit toute l'Église et tous ceux qui apprirent ces choses. Amen. Nous lisons le livre des Actes et nous y trouvons cette histoire. Mais moi, je trouve que le livre des Actes, c'est un livre extraordinaire. Il nous raconte comment Dieu, par son Esprit Saint, accomplit de grandes choses dans la vie des disciples et au travers de la vie des disciples. Il y a eu des conversions, des guérisons, des baptêmes, des résurrections, des miracles, et des manifestations, des dons du Saint-Esprit et tellement d'autres choses encore. Et face à cela, nous, membres de l'Église de Réveil, nous croyons avec tellement d'autres chrétiens dans le monde que depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, ces réalités, toutes ces réalités, sont encore actuelles et manifestées Et cela nous réjouit. Ça devrait nous réjouir en tout cas. Moi, ça me réjouit. Et j'espère que vous soupirez autant que moi à un rafraîchissement de la vie de l'esprit, à vivre le livre des Actes, non seulement dans votre vie personnelle, mais aussi dans l'Église. La richesse spirituelle que nous avons reçue de notre Dieu est telle que nous devrions l'expérimenter tous les jours, dans notre culte personnel, mais aussi chaque dimanche, au travers des dons que le Saint-Esprit a donnés à l'Église. Alors nous sommes tout joyeux, tout guirés, et puis nous lisons Actes 5, et c'est un texte choquant, disons-le, qui nous laisse un froid à glacer notre enthousiasme. Personnellement, j'aurais bien aimé que ce texte ne figure pas dans la Bible, parce qu'il dérange, en fait, il me dérange, comme il vous dérange peut-être, en fait, juste pour un petit mensonge, les voilà tous les deux morts, c'est quand même un Dieu extrémiste, puis moi j'aime pas ça, donc j'aurais mieux aimé que ça ne figure pas dans la Bible. Mais il faut faire avec, et oui, et accepter ce texte biblique, sa réalité de son enseignement aussi. L'histoire est toute simple. Barnabas vend un champ, apporte l'argent au pied des disciples pour les besoins de la jeune communauté. Puis en couple, Ananias et Saphira, des chrétiens très certainement baptisés d'eau et du Saint-Esprit, hein, des chrétiens authentiques, veulent se faire bien voir et vendent aussi leur champ, mais n'apportent qu'une partie de l'argent, tout en disant que c'est le produit global de cette vente. D'abord, disons qu'ils n'étaient pas obligés de vendre leur champ. Pierre le leur rappelle. Ensuite, ils auraient pu dire qu'ils ont vendu à tel prix puis qu'ils donnaient juste une partie de l'argent à l'Église. Pierre leur dit aussi, tout était possible, il n'y avait rien de forcé, rien d'obligatoire. Mais ils ont délibérément décidé de mentir, non seulement aux hommes, et Pierre le leur fera remarquer, d'abord à Dieu. Et ce mensonge délibéré est dévoilé et Dieu les punit sans aucune intervention humaine. Pouf ! Ils tombent devant les apôtres et ils sont morts. À la mort d'Ananias, il est dit qu'une grande crainte saisit tous les auditeurs. À la mort de sa femme, Saphira, il est dit qu'une grande crainte saisit toute l'Église et tous ceux qui apprirent ces choses. Cette crainte, la crainte de Dieu, Ananias et Saphira l'avaient perdue. Qu'en est-il de nous ? Parlons déjà de la crainte, vous savez, cette crainte, cette peur. Nous la vivons au quotidien, peur du Covid, crainte d'une quatrième, cinquième, sixième vague, une crainte financière, une crainte sentimentale. On est craintif. Crainte de l'échec, crainte de s'être trompé, crainte d'un conflit, crainte de tout ce que vous voulez. Et vous pouvez personnellement rajouter ce qui vous fait être une personne remplie de crainte. Et il semble que nous soyons devenus des spécialistes de la crainte. Et ça ne nous dérange pas. Voilà, on est craintif. Et la crainte de Dieu, est-ce qu'on a encore cette crainte de Dieu parmi toutes ces craintes qu'on accumule dans notre vie ? Ben d'abord, disons que ce n'est pas la peur de Dieu et que le mot crainte doit être différemment compris que ce mot crainte qui veut dire peur. Nous n'avons pas peur de Dieu et encore moins de la terreur qu'il pourrait exprimer ou inspirer. À l'inverse des craintes que nous venons de citer, la crainte de Dieu est absolument positive. Ainsi, c'est un respect profond envers lui, une volonté délibérée de toujours lui être agréable. Quoi qu'il arrive, un honneur de marcher dans ses voies, un privilège certain de rester en communion avec lui. Avoir la crainte de Dieu, c'est certainement une des plus belles formes d'amour que nous puissions avoir pour notre Dieu. Est-ce que j'ai la crainte de Dieu ? La Bible dit que la crainte de Dieu, on va voir les slides suivants, C'est s'éloigner du mal, et on le trouve particulièrement dans Proverbes et aussi Isaïe. C'est marcher dans la droiture, c'est le commencement de la sagesse, c'est le bonheur, c'est mon trésor, nous dira Isaïe. Et toutes ces choses pour vous faire réaliser que c'est vraiment quelque chose de positif, de craindre l'Éternel, et non pas quelque chose de négatif. Par contre, perdre la crainte de Dieu, c'est la réalité la plus terrible qu'il puisse arriver à un chrétien avec le fait de perdre son salut. Deux choses qui sont intrinsèquement liées. Perdre la crainte de Dieu, c'est négliger Dieu dans ma vie. C'est lui résister ou lui être indifférent. Indifférent à sa parole pour moi. Perdre la crainte de Dieu, c'est donc m'éloigner de lui. Oh, pas grand pas, petit pas, tout petit pas par tout petit pas, d'une façon insignifiante, mais peut-être constante. Perdre la crainte de Dieu, c'est mépriser la présence du Saint-Esprit en moi. C'est accepter le compromis dans ma vie et laisser le droit au diable, Pierre nous en parle dans ce passage, de remplir mon cœur, comme Ananias et Saphira, et d'ainsi d'avoir choisi des options contraires à la volonté de Dieu dans ma vie. Pour Ananias et Saphira, ces options contraires ont été le mensonge, la trahison, l'hypocrisie, l'appât du gain. Mais pour moi, pour toi, qu'est-ce que c'est ces compromis que nous avons faits dans notre vie? Parce qu'il faut le reconnaître, même si ça fait mal, si ça peut paraître peu spirituel, la crainte de Dieu est en train de disparaître. Elle est en train de disparaître de nos églises. La crainte de Dieu est en train de disparaître de nos vies aussi. Dans nos familles, dans nos couples. En relisant mes notes hier soir, je me suis dit, Jean-Jacques, c'est pas une bonne prédication. On ne devrait pas prêcher la crainte de Dieu en montrant ce qu'il se passe quand on l'a perdu, mais on devrait prêcher la crainte de Dieu en montrant ce qui se passe quand on la garde. Ça sera une autre prédication. Parce que acte 5 fait partie de la Bible. Et cette tragédie, parce que c'est une tragédie, a permis à toute l'Église de retrouver la crainte de Dieu. Mais qu'en est-il de Jésus, notre modèle? Est-ce que lui aussi avait la crainte de Dieu? Alors, pour cela, j'aimerais m'inspirer de l'Ancien Testament, au travers du prophète Élie, qui, dans un de ses chapitres, avait une prophétie messianique concernant Jésus. Et voilà ce qu'il nous est dit en Ésaïe 11, le verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, et celui, c'est Jésus, c'est le Messie. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Dans cette prophétie concernant Jésus, nous y trouvons une liste de certaines facettes de l'Esprit de Dieu en lui. Ce ne sont pas des qualités à avoir, on l'a bien compris, ou ne pas avoir, mais des réalités spirituelles. Et en fait, cette liste nous est assez familière, puisque 1 Corinthiens 12, cette liste des 11 dons du Saint-Esprit, y fait allusion. Par contre, ce qui est différent, c'est la mention Esprit de la crainte de l'Éternel, qui a certainement retenu toute votre attention. Là aussi, la crainte de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on doit avoir ou pas avoir comme une qualité ou comme quelque chose qu'on devrait vivre, mais d'abord, c'est une dimension spirituelle que Dieu a mis en nous et que nous devons développer. Ne plus la nourrir, c'est perdre la crainte de Dieu. Esaïe met l'emphase sur ce dernier point en le répétant au verset suivant, comme pour dire à ses auditeurs ou à ses lecteurs l'importance de cette dernière partie, puisqu'il dira, il respirera la crainte de l'Éternel. Et particulièrement, j'ai trouvé fort ce texte, ce terme, parce que ça veut dire, tous ses poumons sont remplis de la grâce de la crainte de l'Éternel, puis il respire, il ne fait que ça. Il vit continuellement dans la crainte de l'Éternel. Alors j'ai regardé d'autres versions, et j'ai trouvé que ça nous aidait bien à bien comprendre combien positive était la grâce et la crainte de l'Éternel. Il prendra son plaisir dans la crainte de l'Éternel. Une autre version dira, la crainte de l'Éternel sera comme une bonne odeur dans sa vie. Ce texte a eu beaucoup de versions, puisqu'une autre dira, son plaisir sera la crainte de l'Éternel. Et enfin, honorer le Seigneur sera tout son plaisir. Comprends bien maintenant que ce n'est pas quelque chose de négatif ou de pesant, mais quelque chose, au contraire, qui est quelque chose de positif et d'enthousiaste. Et on devrait dire, oui, j'ai envie d'avoir la crainte de l'Éternel. Parce que pour l'instant, on dit, ouf, je n'ai pas trop envie, ou je marche avec des pincettes parce que je ne sais pas ce qui va m'arriver. Mais la question est celle-ci, et c'est la vraie question que nous devons nous poser aujourd'hui, est-ce que j'ai encore la crainte de l'Éternel ? Parce que je l'ai eu à ma conversion, j'ai été convaincu de péché, j'ai eu ces convictions qui m'a montré que j'étais à côté de la volonté de Dieu, et lors de ma conversion, je me suis mis dans la volonté de Dieu. Et petit à petit, ma vie a certainement pris des chemins différents de celle de Dieu, la mienne comme la vôtre. Et parfois, je ne dois pas me demander, mais pourquoi ça va si mal dans ma vie ? C'est parce que vous vous êtes posé cette question, certainement. Ou pourquoi je n'arrive pas à avoir telle chose ? Et puis, en préparant cette prédication, je me suis dit que la vraie question était celle-ci. Est-ce que j'ai encore la crainte de l'Éternel avant de savoir pourquoi ça va mal ? Réfléchissez à votre vie comme je réfléchis à la mienne. Est-ce qu'il y a des compromis que vous avez tolérés ? Des compromis que vous avez recherchés ? Des compromis que vous avez acceptés ? Est-ce que c'est encore le moteur de votre vie, cette crainte de l'Éternel ? Il a fallu deux morts spectaculaires pour que l'Église des Actes retrouve pleinement la crainte de Dieu. Heureusement que Dieu n'agit pas comme ça, encore maintenant, ou qu'il agit plus tellement comme ça. Parce que si je devais considérer notre Église, et puis que toutes les personnes qui avaient perdu cette crainte de l'Éternel devaient mourir instantanément, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui quitteraient cette salle. Moi, pas. Si vous avez perdu la crainte de l'Éternel, n'essayez pas de la retrouver à cause du jugement qui pourrait vous arriver, comme Ananias et Saphira, mais parce que vous aimez Dieu. Et je le redis, la crainte de l'Éternel est un acte d'amour. Et si j'ai perdu ou vous avez perdu la crainte de Dieu, alors je vous propose de la redemander aujourd'hui. Parce que on n'est pas dupe. On peut cacher les choses à son pasteur, à un membre d'église, à son voisin, à son conjoint, mais on sait de quoi nous sommes faits. On sait ce qui se passe dans notre cœur. On sait quand la crainte de Dieu est là et quand elle n'est plus là. Quand elle commence à se détériorer dans notre vie. Quand notre vie devient de plus en plus des vies de compromis. De compromis. Et Dieu nous dit, mais revenez à moi aujourd'hui. Vous dites que vous m'aimez. Aimez-moi en ayant cette crainte de mon nom. Et j'aimerais faire un appel pour retrouver cette crainte de Dieu. Et je vous propose de montrer à Dieu par un geste concret que vous désirez redevenir ce chrétien ou cette chrétienne authentique, libérée de la honte, du péché que nous avons toléré dans notre vie. Retrouver la crainte de Dieu, c'est être libéré de la honte, du péché que j'ai toléré dans ma vie. Et j'ai envie d'en être libéré aujourd'hui. Et si c'est votre prière, eh bien, je vous propose trois postures. Soit vous vous levez, soit vous vous mettez à genoux, vous vous levez la main, mais vous faites un geste qui montre quelque part que vous désirez vraiment retrouver cette crainte de l'Éternel qui peut-être n'a pas été pleinement perdue, mais qui a été mise à mal dans votre vie. Je vous propose de le faire maintenant. Soit vous vous levez, soit vous mettez à genoux, comme vous voulez. Soit vous levez la main, puis vous la gardez levée. Puis vous dites à Dieu, mais voilà, c'est moi. Je me reconnais dans ces paroles de cette prédication. Et mon pied était en train de fléchir. Je suis en train de tomber dans le péché parce que j'ai perdu la crainte de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu me reprend comme il retire quelqu'un qui est en train de se noyer pour dire, mais reviens dans ma barque, reviens. Et je vais prier. Seigneur Jésus, je te demande pardon de m'être éloigné de toi et d'avoir voulu vivre ma vie selon mes principes, selon mes idées. Je reconnais que je n'ai plus vraiment cette crainte de Dieu qui dicte ma conduite et ma vie. Mais je t'aime, Jésus. Je t'aime. Et maintenant, je reviens vers toi. Et je reçois de toi cet esprit de crainte de l'Éternel pour retrouver cette pleine communion avec toi. J'ai besoin de toi, Jésus. Je me suis retiré, je me suis éloigné de toi. Aujourd'hui, je reviens avec cette sainte crainte de Dieu dans mon cœur. Et je te demande, Seigneur, de m'aider à la retrouver, la développer dans ma vie spirituelle, dans la lecture de ta parole, dans la louange, dans une vie de droiture dans mon cœur, une vie de droiture dans mes actes, une vie de droiture dans mes pensées, une vie de droiture dans mes paroles. Amen. Restons un moment silencieux, où que vous soyez, puis laissez le Saint-Esprit vraiment descendre sur vous, vous inonder de cet esprit de la crainte de Dieu, comme Jésus l'a reçu. Et laissez-vous laver, libérer par cet esprit divin de ce qui nous tâche, ce qui nous fait mal en secret. Amen. Je vous propose de vous asseoir. Comment conclure de tels moments? C'était la question que je me posais, puis j'ai trouvé quelque chose qui va nous faire sourire, mais nous faire aussi entrer dans cette pleine vie de l'esprit, dans cette crainte de Dieu. C'est dans Ecclésiaste 12. Vous savez, Ecclésiaste, qui a vraisemblablement été écrit par Salomon, à la fin de son chapitre, chapitre 12 est le dernier, et tout à la fin de ce chapitre, voici ce qu'il dit. Écoutons la conclusion de tout le discours. Finalement, si vous devez retenir qu'une seule chose de cette prédication, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Crains Dieu et observe ses commandements. Et je vous remercie aujourd'hui, mais durant les jours qui viennent, de montrer à Dieu que vous l'aimez et que vous avez la crainte de son nom. Amen.